Chers amis des cellules, bonjour. J'espère que vous tenez le coup malgré le confinement et que la lumière de la résurrection vous illumine et vous réjouit. Je vous propose pour notre rendez-vous de ce jour de travailler sur le texte de Saint Luc, l'épisode des disciples d'Emmaüs que nous entendrons dimanche prochain. Nous nous trouvons au chapitre 24 de l'Évangile selon Saint Luc. Nous serons attentifs à l'humour présent dans ce texte, ainsi qu'au moment où nous en savons plus ou au moment où nous en savons moins que les disciples qui font la rencontre de Jésus. En effet, c'est un critère pertinent lorsqu'on lit l'Écriture sainte de regarder, de prêter attention à ce que les personnages savent et à ce que nous savons. Il arrive des fois que nous en sachions autant que les personnages, mais parfois nous en savons moins qu'eux, ou parfois nous en savons plus qu'eux. Essayons d'être attentifs à cela pendant notre lecture. Je commence la lecture de l'Évangile. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tous les peuples. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. » Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Lors de la première scène, nous en savons plus que les personnages, car le narrateur nous indique que c'est bien Jésus lui-même qui s'approche et qui marche avec eux. On sait aussi que leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Voilà, on a un accès à l'intériorité, on pourrait dire, des personnages, ils ont quelque chose qui les empêche de reconnaître Jésus, dont nous connaissons l'identité. Et puis vient ce petit dialogue, Jésus qui les interroge sur ce dont ils discutaient en marchant. On a encore accès à l'intériorité des disciples, ils s'arrêtent tout tristes, on a cette précision. On nous donne le nom de l'un d'entre eux, Cléophas. Et puis, j'allais dire, premier lieu d'humour, tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Et voilà qu'il dit cela en face de Jésus. On pourrait dire, s'il y en a bien un qui est bien placé pour savoir ce qui s'est passé, c'est Jésus lui-même, qui est en face de toi, mais tu ne le reconnais pas. Au passage, on a un petit élément sur la visibilité ou non des traces de la passion. Parce que, alors on peut imaginer que Jésus cachait ses mains, pourquoi pas, mais en tout cas, ses plaies n'apparaissent pas sanguignolantes. Il a cette capacité de manifester ou pas ses plaies glorieuses, qui pourtant font partie désormais de son être. En tout cas, voilà, situation avec cet humour de celui qui dit « Mais vrai, tu es vraiment le seul à pas savoir ce qui s'est passé » alors qu'il est face à Jésus qui sait profondément, pertinemment, et j'allais dire dans toute la lumière, ce qui s'est passé. Et voilà que Jésus va les inviter à relire ces événements. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il va, c'est important à voir cela, Jésus ne leur dit pas tout de suite que vos yeux s'ouvrent, c'est moi, reconnaissez-moi. Il les invite à dire, à relire ce qui s'est passé et à dire ce qu'ils ont compris. Il les invite du coup à dire quelle était leur espérance et en quoi elle s'est peut-être effondrée. Mais cet acte de relecture de l'histoire est aussi quelque chose qui, pour notre vie spirituelle, est importante. Vous voyez, si le Christ les invite à relire leur histoire, ce qu'ils ont compris de l'histoire, alors il y a pour nous aussi une nécessité de nous arrêter pour relire notre histoire, pour relire notre histoire sainte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai vécu ? Qu'est-ce que j'ai reconnu de la présence de Dieu ? Ou qu'est-ce que j'ai vu de mon espérance se réaliser ? Ou au contraire, qu'est-ce que j'ai vu de mon espérance qui ne se réalisait pas ? Cette relecture de notre vie est une étape qui nous ouvre à la suite, qui nous ouvre à pouvoir cheminer plus loin avec Jésus. Mais si on ne la fait pas, on peut imaginer que le cheminement avec Jésus ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et voilà qu'ils répondent, et ils vont présenter Jésus tel qu'ils l'ont découvert, un homme qui est un prophète puissant par ses actes et ses paroles, à la fois devant Dieu et devant le peuple. Et puis on lit ce qu'on a compris, il a été livré par les grands chefs, on l'a fait condamner à mort, ils l'ont crucifié, et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Voilà, une espérance qui est peut-être encore très matérielle, très politique, parce qu'il est bien celui qui va délivrer Israël, mais qui va délivrer Israël du péché et de la mort. Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. Voilà pour eux le principal de l'histoire, et pourtant, voilà qu'ils vont ajouter ce qui ne leur apparaissait que comme un détail, que comme une anecdote. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Ils ajoutent cet épisode qui est dans leur mémoire, mais dont ils ne tirent pas vraiment parti. La tristesse qui les a recouverts, c'est elle qui porte leur humeur, c'est d'elle dont est tissée leur humeur. Pourtant, ils parlent de ces femmes qui sont allées au tombeau, qui n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient une vision des anges qui disaient qu'elle est vivante. Alors, quelques-uns des compagnons sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors là, je dirais, deuxième élément particulier où l'humour du texte se manifeste, mais lui, ils ne l'ont pas vu, on ne peut pas se demander, était-il aussi aveugle que vous, disciples d'Emmaüs, il est en face de vous et vous ne le voyez pas. Il y a quelque chose comme ça de cette présence de Jésus vivant qui n'est pas discernée, qui n'est pas encore discerné, alors que ils l'ont connu, il y a quelque chose qui n'est pas allé jusqu'au bout. Et l'on voit que dans les évangiles, il y a, j'allais dire, presque cette lutte pour savoir qui est Jésus, pour le découvrir, pour le reconnaître. Jésus les a interrogés, pour vous qui suis-je ? À Philippe, qui au dernier repas lui disait, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui disait, mais Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Qui m'a vu a vu le Père. Donc il y a cette reconnaissance de Jésus, cette ouverture des yeux sur Jésus est vraiment au cœur de notre vie. Il y a ce passage de l'aveuglement à la vision qui est au cœur de cet épisode d'Emmaüs. Cela peut nous amener à nous interroger pour savoir, j'allais dire, combien de fois dans notre vie a-t-il été présent à côté de nous sans que nous nous en rendions compte, sans que nous l'ayons identifié. Vous connaissez tous, je pense, ce fameux poème brésilien des pas dans le sable, des deux traces de pas dans le sable, et puis à un moment où il n'y a plus qu'une trace de pas dans le sable, et la personne se dit, mais Seigneur, tu t'es avec moi, et là, dans la détresse, il n'y a plus qu'une trace de pas, tu n'étais plus là. Et le nœud de l'histoire, c'est, mais quand il n'y a qu'une trace de pas, c'est moi qui te portais. L'homme ne reconnaissait pas dans ce poème brésilien la présence de Dieu au moment le plus crucial. Eh bien, nous aussi, interrogeons-nous. N'y a-t-il pas des moments où nous n'avons pas reconnu cette présence de Jésus qui était pourtant avec nous sur le chemin? Jésus évoque alors ce qui provoque cet aveuglement. Esprit sans intelligence. Il y a quelque chose au niveau de notre discernement qui est comme bloqué, comme votre cœur est lent à croire, là encore le lieu où se fait la décision de l'homme, il y a quelque chose qui ne tire plus les conséquences, qui n'arrive plus à, réunissant les éléments dont il est informé, à se dire c'est le Seigneur qui est présent. Et alors Jésus va leur ouvrir les Écritures, Jésus va leur interpréter dans toute l'Écriture ce qui le concerne. Et là, c'est assez étonnant, parce que c'est la seule fois dans le passage où nous en savons moins que les disciples. Généralement, on en sait plus qu'eux, on sait que c'est Jésus, et là, nous savons que Jésus leur interprète les Écritures, on aurait bien aimé en avoir le contenu, sauf qu'on n'a pas. On n'a pas cette exégèse, on n'a pas ce commentaire que Jésus leur fait des Écritures. C'est très intéressant ça, parce qu'on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous le donne pas? Alors on pourrait dire, il y a plusieurs hypothèses, il y a une hypothèse, on pourrait dire, eh bien parce que c'est le commentaire que l'Église fait désormais des Écritures. La parole du Christ est interprétée, reconnue dans tous les actes d'enseignement que fait l'Église. Une façon de le voir. Donc ce contenu nous est accessible à travers la prédication actuelle de l'Église. Un autre aspect, on aurait pu dire, parce que ce serait trop long. Voilà, le parchemin est rare et coûte cher, et on ne pouvait pas tout écrire. Admettons. Mais il y a peut-être un élément aussi plus pertinent. C'est l'élément qui dit que ce commentaire est un commentaire qui doit être accueilli personnellement. Et du coup, il ne s'agit pas d'entendre là l'explication qu'un autre aurait reçue, mais que nous fassions cette expérience d'une explication qui rejoigne notre propre cœur. Voilà, il y a un exercice, il y a une expérience qui ne se vit pas par procuration, qui doit être faite par notre propre personne. Et donc nous avons à lire les Écritures à la lumière de Jésus. Nous avons à faire notre propre expérience de la lecture de l'Écriture où la lumière, la parole de Jésus vient nous donner le sens. Et ça, nul ne peut en faire l'expérience à notre place. Mais c'est donc, j'allais dire, l'importance pour nous d'oser, de nous plonger dans la lecture de l'Écriture, en demandant la lumière de l'Esprit-Saint. oser nous plonger dans la lecture des Écritures en demandant la lumière de l'Esprit-Saint, peut-être en nous mettant aussi à plusieurs pour lire l'Écriture, alors nous aussi, nous ferons cette expérience personnelle que nul ne peut faire à notre place, d'une ouverture du sens des Écritures qui nous permet de reconnaître Jésus. Nous arrivons maintenant à la scène où on est tout près du village d'Emmaüs. Et voilà encore que le narrateur nous informe, Jésus fit semblant d'aller plus loin. À nouveau, on en sait plus que les personnages. Et voilà qu'il s'efforce de le retenir. Reste avec nous. C'est quelque chose là qui est très beau à voir. On peut faire mémoire, j'allais dire, de l'inverse dont Dieu se plaignait à travers le prophète Ézéchiel au chapitre 8, au verset 6. Dieu disait au prophète Ézéchiel, « Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font ?» Il était en train de montrer toutes les idoles qui avaient été rassemblées dans le temple de Jérusalem. « Regarde toutes les abominations affreuses que la maison d'Israël pratique ici pour m'éloigner de mon sanctuaire. » On avait cette plainte en Ézéchiel de Dieu qui gémit de ce que le peuple fait tout ce qu'il faut pour l'éloigner, lui le Seigneur, de son propre sanctuaire. Et le livre d'Ézéchiel manifestera aussi comment la gloire de Dieu quitte le temple de Jérusalem. Mais bien ici, c'est le contraire. Voilà que l'humanité demande au Seigneur « Reste avec nous !» C'est le renversement. L'humanité qui disait « Non, va-t'en, nous ne voulons pas de toi, il n'y a pas de place pour toi. » L'humanité dit désormais, à travers ses deux disciples, « Reste avec nous. » L'humanité demande que Dieu reste avec nous. La prophétie d'Isaïe de l'Emmanuel, « Dieu avec nous », n'est pas simplement une intention de Dieu, elle est un désir de l'homme. « Reste avec nous, sois avec nous. » Et l'on nous dit alors que Jésus entra donc pour rester avec eux. C'est intéressant là de remarquer la finalité. Jésus entre pour rester avec eux, car la suite va être un peu surprenante. Jésus entre donc avec eux, il se met à table, il prend le pain, prononce la bénédiction, l'ayant rompu, il le leur donne. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Il y a quelque chose là d'assez remarquable et en même temps de très étonnant. On nous dit que Jésus était entré pour rester avec eux, et voilà qu'il disparaît. C'est bizarre, ça semble contradictoire. Pourquoi est-ce qu'il disparaît alors que, soi-disant, il était rentré pour rester avec eux? Est-ce qu'il y a une contradiction? Alors, il n'y a peut-être pas une contradiction si on comprend que la manière dont Jésus veut rester avec eux est une manière nouvelle. Désormais, Jésus ne sera plus avec eux comme cela se faisait avant la Passion. Désormais, la présence de Jésus sera identifiée sous une modalité nouvelle, une modalité toute particulière qui est celle de la fraction du pain, c'est-à-dire la célébration de l'Eucharistie. C'est dans l'Eucharistie que nous ferons cette rencontre du Seigneur ressuscité. C'est dans l'Eucharistie, la fraction du pain, c'était le terme technique des premiers siècles pour désigner l'Eucharistie, c'est à la fraction du pain que nous ferons cette rencontre désormais, que nous aurons à chercher cette rencontre avec Jésus ressuscité. C'est ainsi que les disciples d'Emmaüs, quand ils seront retournés à Jérusalem, expliqueront aux apôtres comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Voilà le nœud, le corps de cette reconnaissance de Jésus, de cette présence de Jésus désormais, est à chercher dans la célébration de l'Eucharistie. C'est face à l'Eucharistie que la présence de Jésus se donne à reconnaître, se donne à recevoir. Voilà, je crois vraiment important que nous relevions et que nous acceptions ce mode nouveau par lequel le Seigneur Jésus se rend présent à nous. Il y a un petit peu ce jeu dans le texte, il est là, ils ne le reconnaissent pas, ils le reconnaissent et il n'est plus là. Si, il sera là, mais sous un mode différent. on ne mettra pas la main sur lui, j'allais dire comme on pouvait la mettre la main sur lui précédemment, mais il sera présent dans son Eucharistie. Ce sera le mode ordinaire de sa présence. La dernière séquence de l'Évangile est ce retour à Jérusalem et ce partage de l'expérience de Jésus. Vous voyez, ce partage de l'expérience de Jésus, en quoi je l'ai vu vivant, agissant dans ma vie, qui est au cœur de ces rencontres des cellules d'évangélisation, de trouver dans notre semaine comment nous avons reconnu la présence de Jésus et le partager. C'est exactement ce que font les disciples. Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre, ils expliquent eux-mêmes comment ils l'ont reconnu sur le chemin d'Emmaüs. Ce partage de l'expérience de Jésus que nous avons reconnu présent dans notre vie. Eh bien, je vous suggère, pour pouvoir approfondir ce texte, peut-être deux petits exercices. Un premier exercice, ce serait dans le cadre de cette semaine qui vient, de prendre le temps dans notre prière de dire notre espérance telle qu'elle est aujourd'hui, un peu comme Jésus a fait faire aux disciples d'Emmaüs. Que s'est-il passé? Eh bien, voilà, quelle est ton espérance aujourd'hui? En quoi ton espérance est déjà accomplie, ou en partie, ou en quoi elle te semble décevante? C'est telle chose que tu espérais et qui ne s'est pas produit. Apprenons à dire notre espérance telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est la première suggestion. La deuxième suggestion, c'est une méditation en comparant deux versets de l'Écriture. Le verset de Genèse 3, verset 7, où l'on avait une écoute biaisée de la parole de Dieu à la lumière du serpent, et qui avait donné le résultat suivant: « Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. » Et de comparer ou de faire résonner ce premier verset avec le verset de Luc 24, 31, après une relecture de la parole de Dieu à la lumière de Jésus, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Voilà, deux épisodes où les yeux de l'homme, des yeux de l'humanité s'ouvrent, mais l'un, il s'ouvre sur la nudité de la grâce de Dieu perdue, tandis que l'autre, leurs yeux s'ouvrent sur la présence de Dieu et du Dieu sauveur de l'humanité. En ouvrant les yeux sur Jésus ressuscité, ils voient à la fois Jésus, mais ils voient aussi leur humanité sauvée, leur humanité qui retrouve le chemin de la vie, de la communion avec Dieu, le chemin du royaume. Prenons le temps de, de méditer ces deux versets pour goûter la lumière du second. Ce n'est pas par hasard que saint Luc a voulu reprendre les mêmes mots et un peu les mêmes tournures, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et les deux disciples aussi ont leurs yeux qui s'ouvrent, et ils connurent, ils le reconnurent. Voilà, puissions-nous, par cette méditation, entrer dans la lumière de Pâques que le Christ veut nous communiquer. Je vous souhaite de bons échanges.